vote des femmes en France, le droit de vote des femmes ne s'est pas fait en un jour. C'est le résultat d'un très long combat qui a commencé dès la Révolution française. À cette époque, Olympe de Gouges demandait déjà que les femmes soient traitées comme les hommes. Au XIXe siècle, on appelle les militantes les suffragettes. L'une des plus connues est Aubertine Auclair. Elle a tout fait pour se faire entendre. Elle a créé un journal, une association et a arrêté de payer ses impôts pour montrer son mécontentement. Elle voulait que les femmes puissent voter, mais aussi être élues. N'est-ce pas, Lina ?
Oui, tout à fait, Nour. Plus tard, au début du XXe siècle, Louise West a pris le relais. Elle a organisé beaucoup d'actions et de discours pour faire bouger les choses. Pourtant, malgré tous ces efforts, les politiciens ils ont continué à dire non jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après, il y a tout qui change à la fin de la guerre mondiale. Donc le 21 avril 1944, il y a une loi, une ordonnance, qui est enfin signée. Les femmes, elles gagnent le droit de voter et du coup de se présenter aux élections. Leur premier vote, il a eu lieu le 29 avril 1945. Et du coup, c'était pour les élections de quartier, donc les municipales. Et ce jour-là, les femmes sont majoritaires parce que du coup, elles représentent environ 53% des électeurs. Et du coup, Doria, que peux-tu nous dire par rapport à la différence entre les femmes et les hommes ?
Eh bien, Lina, au départ, les femmes allaient un peu moins voter que les hommes. En 1951, par exemple, elles représentaient 54% des personnes qui ne votaient pas, l'abstention. Mais petit à petit, elles ont pris leur place. Dans les années 70, elles votent presque autant que les hommes. En 86, il n'y a plus de différence, la participation est la même. Et en 1993, les femmes votent même un petit peu plus que les hommes. Nous pensons que cet événement a marqué une grande partie de l'histoire des femmes. C'est un commencement pour celle-ci et celle quelque chose qui tenait beaucoup, qui a permis une grande évolution dans la société. Et il fallait que ça se passe afin d'avoir plus de liberté et de ne pas être inférieure aux hommes.
Merci de nous avoir écoutés.
Bonjour, ici Florian. Nous allons vous expliquer avec Jérémy comment les femmes ont obtenu le droit de vote en France et dans le monde. En France, une date importante est le 21 avril 1944. Ce jour-là, Charles de Gaulle donne le droit de vote aux femmes. Avant cela, depuis 1848, seuls les hommes pouvaient voter. Les femmes votent pour la première fois en 1945, lors des élections municipales. Cela marque une grande avancée vers l'égalité entre les hommes et les femmes. À toi, Jérémy.
Mais la France est en retard par rapport à d'autres pays. Par exemple, la Nouvelle-Zélande accorde ce droit dès 1893 et l'Australie en 1902. Après la Première Guerre mondiale, plusieurs pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou les États-Unis donnent aussi le droit de vote aux femmes. Cela s'explique par leur rôle important pendant la guerre et par les combats menés par les suffragettes qui réclament l'égalité.
En France, ce retard s'explique par des idées anciennes. Depuis la Révolution française, les femmes sont exclues de la politique. Certaines personnes pensent qu'elles ne sont pas capables de participer aux décisions. Même si des femmes réclament leurs droits, les lois ne passent pas. Il faut attendre la Seconde Guerre mondiale pour que la situation change.
Mais le droit de vote ne suffit pas pour avoir une vraie égalité. Les femmes sont encore peu présentes en politique, surtout dans les postes importants. Les hommes restent majoritaires et les mentalités changent lentement.
Enfin, dans le monde, tous les pays n'ont pas donné ce droit en même temps. Certains l'ont fait tôt, d'autres beaucoup plus tard. Cela dépend de l'histoire et de la culture de chaque pays.
En conclusion, le droit de vote des femmes est une étape très importante, mais l'égalité complète n'est pas encore totalement atteinte aujourd'hui, et c'est bien dommage.
Bonjour, ici Gaëlle. Avec Méline, nous allons vous parler du combat pour le droit de vote des femmes en France. Ce combat s'inscrit dans une longue lutte pour l'égalité entre les sexes, menée par plusieurs générations de militantes. Dès la Révolution française, certaines femmes revendiquent des droits politiques comme Olympe de Gouges, qui affirme que les femmes doivent être les égales des hommes. Cependant, ces revendications sont rejetées et les femmes restent exclues de la vie politique pendant plus d'un siècle. Au XIXe siècle, la situation évolue lentement. Jeanne Desrouin fait partie des premières à réclamer explicitement le droit de vote. En 1849, elle se présente même à une élection législative alors que les femmes ne sont pas éligibles. Son engagement montre une volonté forte de contester l'ordre établi, mais à cette époque, les femmes sont encore considérées comme inférieures et cantonnées à la sphère domestique. À toi, Méline.
Merci, Gaïané. C'est alors dans ce contexte qu'apparaît Aubertine Auclair, une figure majeure du suffragisme en France. Sous la Troisième République, elle fait du droit de vote le combat central des féministes. Selon elle, sans participation politique, les femmes ne peuvent pas faire évoluer leurs droits. Elle adopte des méthodes radicales pour se faire entendre. Elle refuse de payer ses impôts, estimant qu'elle n'a pas à contribuer à un système qui ne lui accorde aucun droit, et mène des actions spectaculaires, comme la destruction symbolique d'une urne. Elle fonde également un journal, La Citoyenne, afin de diffuser les idées féministes et mobiliser l'opinion publique. Au début du XXe siècle, le mouvement prend de l'ampleur. Marie Denisard incarne une nouvelle forme de militantisme. En 1913, elle devient la première femme candidate à une élection présidentielle en France. Elle se présente également à de nombreuses autres élections et obtient plusieurs milliers de voix, ce qui montre un certain soutien à la cause. Cependant, elle fait face à de nombreuses critiques, souvent sexistes, et même certaines féministes jugent ses actions trop radicales. Isolée, elle finit par sombrer dans la pauvreté et est internée, ce qui explique en partie pourquoi son nom est aujourd'hui peu connu.
Parallèlement, d'autres militantes choisissent une stratégie différente, plus institutionnelle. Cécile Brunschvicg s'engage au sein des organisations politiques et associatives pour défendre le droit de vote des femmes. Elle occupe des postes importants et milite activement pour faire évoluer la législation. En 1936, elle devient l'une des premières femmes à entrer au gouvernement, ce qui constitue une avancée symbolique importante. Elle profite de cette position pour promouvoir l'éducation des filles et améliorer les conditions de vie des élèves, notamment grâce au développement des cantines scolaires. Malgré ces mobilisations, la France reste en retard par rapport à d'autres pays européens où les femmes obtiennent le droit de vote plus tôt. Pourtant, le rôle essentiel des femmes pendant la Première Guerre mondiale renforce leur légitimité à participer à la vie politique. Le mouvement suffragiste gagne alors en visibilité et en soutien, même si les résistances restent fortes, notamment au sein des institutions politiques.
Finalement, il faut attendre 1944 pour que les Françaises obtiennent le droit de vote, soit près d'un siècle après les premières revendications. Cette conquête est le résultat d'un long combat mené par des femmes aux profils et aux stratégies variées. Certaines ont choisi la contestation, d'autres l'engagement politique ou la candidature symbolique. Toutes ont contribué à leur manière à faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes. Ainsi, l'histoire du droit de vote des femmes montre que les avancées sociales sont souvent lentes et nécessitent la mobilisation de nombreuses générations. Elle rappelle aussi que ces droits, aujourd'hui acquis, sont le fruit de luttes importantes et doivent être préservés.
Bonjour Emma, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le baba de la démocratie ?
Tout à fait Yaël, alors parlons du combat séculaire de Olympe de Gouges, qui était une autrice française. En 1791, elle a écrit un livre qui se nomme « La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne », qui se réfère au pouvoir machiste. Olympe de Gouges explique que si les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, elles doivent avoir le droit de monter à la tribune. Le roi Philippe de France fait adopter une constitution le 14 août 1830. La monarchie qui s'appuie essentiellement sur la bourgeoisie, qui maintient le suffrage censitaire. Toutefois, l'imposition est abaissée et le double vote est aboli. Le suffrage universel n'est rétabli qu'à l'avènement de la Deuxième République, le 4 novembre 1848. Depuis, il a été la règle pour tous les régimes successifs, hormis l'État français. Mais jusqu'en 1944, il s'agit en réalité d'un suffrage universel hémiplégique. Les femmes étant privées du droit de vote, il ne s'agit que d'un suffrage semi-universel.
Et donc, que s'est-il passé dans les autres pays ?
Eh bien, Yaël, la bataille pour le droit de vote des femmes a particulièrement été agitée en Angleterre. Elle a même été tragique par rapport à Emily Davison, qui a été tuée car elle s'est jetée sous les pattes du cheval du roi George V pour attirer l'attention sur la cause des femmes durant le derby d'Epsom en 1913. Les femmes britanniques ont alors obtenu le droit de vote le 28 décembre 1928. Cependant, les femmes ne votaient qu'à partir de 30 ans, contrairement aux hommes qui votaient à partir de 21 ans. Parallèlement, la Grande-Bretagne a appliqué l'égalité électorale absolue en 1928. Le droit de vote des femmes a été accordé en Allemagne à partir de 1919. L'Espagne et la Turquie ont appliqué cette loi en 1931. Également, la loi a été mise en place en France en 1944. L'Italie a instauré la loi en 1945. La Belgique a appliqué cette loi sur le droit de vote des citoyennes en 1948, ainsi que la Suisse depuis 1971, à la suite d'un référendum et après de nombreuses votations infructueuses. La parité et l'égalité d'accès des femmes et des hommes aux responsabilités politiques et professionnelles constituant un grand débat en ce début du XXIe siècle. Yaël, quelles sont les valeurs et les fondements de la République ?
Eh bien Emma, les valeurs et fondements de la République ont débuté par les mouvements féministes qui se sont développés sous la Troisième République. Cette idée a globalement été acceptée par la Chambre des députés qui a voté à diverses reprises en faveur de l'élargissement du corps électoral aux femmes. Cependant, le Sénat a déposé un veto en raison de cette réforme du code électoral qui a introduit le cléricalisme. Après l'obtention du droit du vote pour les femmes britanniques en 1918, la France fut une des dernières démocraties à refuser d'accorder ce droit élémentaire à la moitié de la population. Selon le sénateur Alexandre Bérard, l'exemple anglo-saxon n'est pas transposable dans une société dominée par le catholicisme, car ça contribuerait à une hiérarchie ecclésiastique. D'après l'éminent constitutionnaliste de la Troisième République, Adhémar Esmin, il faut faire entrer les femmes dès maintenant dans la vie publique, sans tenir compte de la différence de nature entre les hommes et les femmes. Cela permet de contribuer à des éléments troublants dans l'organisation politique des sociétés modernes. Dès 1936, la décision du général de Gaulle a permis que le suffrage devienne universel. En raison des comportements électoraux similaires des hommes et des femmes, le combat pour l'égalité hommes et femmes en matière électorale est gagné. Cependant, 60 ans après avoir obtenu le droit de vote, les femmes luttent encore pour accéder aux responsabilités électives et exécutives, jusqu'ici monopolisées par les hommes. Et il serait temps que ça se termine.
Bonjour chers auditeurs, ici Illy, avec Anaïs et Stella, nous allons vous parler du masculinisme aux USA à partir de l'article « Avec Trump, le masculinisme est au pouvoir » de Rachel Silvera, paru dans l'Alternative économique en 2025. Le texte parle de la situation aux USA depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Il explique surtout que certaines idées, comme le masculinisme, c'est le fait de mettre les hommes au-dessus des femmes, prennent de plus en plus de place dans la société et en politique. Cela a des conséquences importantes sur les droits des femmes. Ensuite, le texte explique qu'il y a une montée de masculinisme. Donald Trump est présenté comme quelqu'un qui met en avant une image très traditionnelle de l'homme, quelqu'un de fort, dominant et supérieur aux femmes. Il défend aussi les valeurs familiales classiques où les femmes ont un rôle plus limité, souvent centré sur la famille. Certaines personnes pensent que cela encourage les idées antiféministes et en retour en arrière sur les droits des femmes. Les réseaux sociaux jouent aussi un rôle important dans cette situation. Ils permettent à certains influenceurs de diffuser facilement des messages contre les femmes et le féminisme. Parfois, ces discours vont très loin, jusqu'à remettre en question des droits importants, comme le droit des votes des femmes. Ce n'est pas seulement en politique que ces idées existent, mais aussi dans le monde du travail. Par exemple, certains chefs d'entreprise pensent qu'il faudrait remettre plus de masculinité dans les entreprises, ce qui peut créer des inégalités.
Le texte explique ensuite pourquoi ces idées se développent autant. D'abord, il y a une réaction contre les mouvements féministes. Certains hommes ont l'impression de perdre leur place ou leur pouvoir et ils réagissent en voulant reprendre le dessus. Ensuite, il y a aussi la montée de l'extrême droite dans plusieurs pays avec des dirigeants qui partagent des idées similaires. Une autre raison est que certains hommes se sentent en difficulté aujourd'hui, par exemple à cause du chômage ou du manque de reconnaissance. Du coup, ils expriment leur frustration en adoptant des comportements ou des discours sexistes pour affirmer une forme de domination. Le texte parle aussi des résultats des élections. On remarque une différence entre les hommes et les femmes dans les votes. Beaucoup d'hommes ont voté pour Donald Trump, alors que beaucoup de femmes ont voté pour Kamala Harris. Mais ce n'est pas aussi simple, car il faut aussi prendre en compte d'autres éléments, comme la classe sociale, le niveau d'études ou encore l'origine. Par exemple, certaines femmes blanches avec un niveau d'études plus faible ont voté pour Trump. Ces choix peuvent s'expliquer par des idées conservatrices, comme l'importance de la famille ou la peur de l'insécurité. Certaines femmes pensent aussi que les féminismes ne représentent pas toutes les femmes. En effet, nous ne bénéficions pas de la même manière des avancées féministes, ce qui peut créer des divisions.
Après les élections, certaines décisions politiques ont été prises et elles inquiètent beaucoup de monde. Par exemple, les droits des femmes sont remis en question. Cela limite leurs droits dans plusieurs domaines comme la santé, l'éducation, leur identité. Des associations féministes comme National Organization for Women préparent des actions en justice pour s'opposer à ces décisions. Mais à la fin, le texte montre quelque chose d'inquiétant. Il y a moins de mobilisation qu'avant. Par exemple, lors du premier mandat de Donald Trump, les manifestations étaient plus nombreuses. Aujourd'hui, certaines personnes sont fatiguées ou choquées par la rapidité des changements. Pour conclure, ce texte montre que le retour de Trump entraîne une montée des idées masculinistes, une remise en question des droits des femmes et une minorité, ainsi qu'un affaiblissement de certaines libertés, notamment dans le domaine scientifique.
Radio
Slash.
Bonjour, ici Dylan, je suis avec Victoria et nous allons aborder le sujet de l'éducation des filles. Première question, pourquoi l'éducation des filles est-elle importante ?
Bonjour Dylan, alors l'éducation des filles, pourquoi elle est aussi importante ? Et bien notamment pour améliorer la condition des femmes. On sait aujourd'hui qu'on a énormément de progrès depuis le XXe siècle, mais notamment aussi pour construire en fait une société plus égalitaire.
D'accord. Quel texte définit l'éducation comme un droit ?
Alors, on a donc de nombreux textes, hein, notamment des textes internationaux, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Et puis, on a aussi donc, la Convention relative aux droits de l'enfant en 1989, qui sont indispensables et qui sont vraiment des droits reconnus.
Ok, mais pourquoi certaines filles ne vont pas à l'école ?
Alors, beaucoup de filles ne vont pas à l'école. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont notamment victimes de violences, de harcèlement ou de discrimination, donc y compris à l'école. On sait aujourd'hui qu'en 2021, 132 millions de filles entre 6 à 17 ans ne sont pas scolarisées, et notamment dans des zones comme l'Afrique subsaharienne ou l'Afghanistan, où les progrès sont effectivement très limités.
Mais alors, qu'est-ce que l'éducation apporte aux filles ?
Eh ben, elle apporte plusieurs choses, notamment d'abord la santé, la nutrition et les conditions de vie familiale. Elle permet également aux femmes de participer aux décisions dans la société et de favoriser également leur accès à l'emploi.
Et pourquoi les filles choisissent moins les matières scientifiques ?
Alors, ce sont des choix qui sont évidemment influencés par des idées reçues, qui relient notamment les sciences aux garçons. Mais aujourd'hui, on sait que les femmes restent minoritaires dans les domaines scientifiques, où elles représentent environ un tiers des étudiants.
En résumé, que faut-il pour avoir l'égalité entre les filles et les garçons ?
Alors, c'est vrai que l'accès aujourd'hui à l'éducation des filles, elle a énormément progressé, mais il reste encore beaucoup de défis majeurs. Pour justement essayer d'avoir une égalité plus ou moins élaborée et pour espérer justement un jour avoir les mêmes chances que les hommes.
Merci Victoria de vos réponses, même s'il reste beaucoup de progrès à faire, en espérant qu'un jour les femmes puissent avoir les mêmes chances que les hommes.